Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. Casser les pieds, faire des pieds, partir du mauvais pied, faire quelque chose comme un pied, mettre à pied, il n'y a que l'expression « c'est le pied » pour sauver les apparences. En dehors de cette exception, il y a comme qui dirait quelque chose qui cloche entre nous et nos panards. Passe encore si on était les seuls à leur faire des misères. Il a fallu qu'on leur inflige des chaussures plus serrées qu'un bracelet de montre, des talons et des semelles aussi épaisses que rigides. Pour sûr, ça protège, ça a même parfois de l'allure. Mais bonjour les dégâts. À l'ère de la sneakers, qui compte pour la moitié des paires vendues chaque année, l'expression « trouver chaussure à son pied » n'a jamais été aussi fausse. Qu'on chausse du 34 ou du 48, nos souliers, pompes et baskets ne font rien pour arranger la vie de nos petits petons, et ce, dès le plus jeune âge. Malheureusement, à la fin, c'est tout notre corps qui trinque, des chevilles aux cervicales. Vous trouvez que je mets les pieds dans le plat ? Attendez de lire le dossier d'Hervé Ratel dans le numéro 920 de Science et Avenir. Rien qu'au titre, on pressent qu'il va libérer de la place dans nos armoires. Mal de dos, la faute aux chaussures, la réponse avec Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour Romain.
On aime nos pieds, mais on ne leur dit pas assez. Hein. C'est la première fois qu'on parle de nos pieds dans 6ème Science. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à traiter le sujet dans Science et Avenir ?
Alors, le fait que ce soit la première fois que le sujet soit évoqué dans 6ème Science montre bien la déconsidération, hein, le dédain dont nos pieds font l'objet. Et justement, je suis pas sûr qu'on les aime vraiment, nos pieds. Alors, qu'il existe tant d'expressions, tu les as citées, hein, t'es valorisante, bête comme ses pieds, j'en passe, montre bien qu'on les supporte plus qu'on les aime, ces appendices qui pourtant font un boulot énorme. Elles nous portent en permanence, elles nous permettent de crapahuter sur plein d'environnements, mais les pieds sont totalement dénigrés et négligés. Alors qu'un pied compte naturellement autant de muscles, de tendons et d'os que la main. Maintenant, pour répondre à ta question, d'un point de vue personnel, bon, j'étais comme tout le monde, je n'avais pas une meilleure opinion des pieds que le reste de la population. À vrai dire, je m'en fichais. Mais c'était en été, j'avais besoin de sandales, j'ai cherché sur le net et je suis tombé sur le terme de chaussures barefoot, chaussures pieds nus. Alors ça a excité ma curiosité, j'ai un peu fouillé et alors là, un abîme s'est ouvert sous mes pieds, si j'ose dire. Je me suis aperçu que tout ce que je pensais savoir de la chaussure et des raisons pour lesquelles on en portait était totalement faux.
Il y a une expression que j'ai beaucoup aimée dans ton dossier, c'est « tu compares le fait de porter des chaussures à une paire de gants de boxe qu'on imposerait 10 heures par jour à nos mains ». Est-ce que cette image, elle est belle, hein, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu too much ?
Mais je crois pas, surtout considérant que tu ne portes des gants de boxe que le temps d'un match. Les chaussures, c'est 10 heures par jour, tous les jours, durant des décennies, la vie durant. Et ce faisant, en portant ce genre d'orthèse si longtemps, bah, tu affaiblis tes muscles, tes tendons, tes ligaments, avec des retentissements sur les genoux, les hanches, le dos, le cou. Je pense que si un boxeur portait ses gants en permanence, ses mains, ses bras, bah, ça faiblirait tout autant. Alors, bien sûr, les problèmes de santé que j'évoque n'arrivent pas d'emblée. Hein. Il faut plusieurs années, voire décennies avant que les chaussures, à force d'être portées, ne déforment le système musculo-squelettique. Mais bon, toutes les études scientifiques que j'ai trouvées attestent de cela, quoi.
Tu utilises le terme d'orthèse ou de prothèse dans le dossier. Enfin, les chaussures, ça reste des chaussures.
C'est peut-être pas un terme très, très adéquat. Je savais pas trop comment m'en sortir à ce niveau-là. Disons que ce sont des dispositifs qu'on met sur nos pieds. C'est peut-être pas le terme le plus adéquat qui soit.
Non, mais on est tous à la recherche de synonymes. Hein, et j'ai été confronté pour mon introduction, et ça que orthèse, prothèse, ça fait très vite médical. Or, on va voir qu'on est très loin du médical, finalement, dans les chaussures qu'on utilise et qu'on inflige à nos pieds. Tout à l'heure, tu nous disais justement que le pied manquait de considération, alors que bah, c'est un appareil, une machine, on peut le dire, d'une technicité qui n'a rien à envier à celle de nos mains. Est-ce que tu peux peut-être rentrer dans la machine et nous expliquer à quel point le pied fonctionne un peu comme une horloge suisse ?
Alors, c'est vrai que c'est incroyable, je ne m'étais jamais penché sur la question parce que je négligeais mes pieds. Mais comme me l'ont dit certains scientifiques, le pied, c'est une structure vraiment extraordinaire, quoi. Capable de s'adapter à plein de terrains différents, d'être souple, mais de se rigidifier quand il le faut. Et en plus, ça porte tout notre poids. quelque part, ses mérites dépassent même celles des mains, parce que ce qu'il doit faire à chaque instant, au jour le jour, c'est vraiment incroyable. Mais bon, toutes ces caractéristiques uniques du pied ont été totalement occultées depuis que les chaussures existent, quoi, voire niées.
Ah bah justement, alors là, tu me tends la perche que j'attendais, en quelque sorte, c'est que finalement, ses pieds, cette belle mécanique, on la contraint, on l'enferme, mais depuis quand ? C'est une question à laquelle on ne pense pas tous les jours, mais depuis quand on met des chaussures à nos pieds ?
Bah, en fait, on ne le sait pas vraiment, parce que les premiers chaussons, dans les temps anciens, je parle au néolithique, étaient dans des matériaux, cuir, végétaux, qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'utilité première de la chaussure, c'est de protéger le pied du froid, de certaines surfaces, d'éléments extérieurs, mais en aucun cas de nous aider à marcher. Et d'ailleurs, en le faisant avec les chaussures modernes, bah, tu l'affaiblis parce que tu laisses des éléments artificiels prendre le rôle de structures naturelles conçues spécifiquement pour nous soutenir.
Oui, c'est ça. En fait, on crée une sorte d'assistana pour le pied dont il va dépendre.
Oui, oui, oui. C'est comme quand tu mets un plâtre finalement à ton bras. Tu n'imaginerais pas retirer le plâtre et puis te mettre tout de suite à faire de la boxe. Tu sais très bien que tes muscles du bras se sont affaiblis, se sont atrophiés et qu'il faut un petit peu de temps pour les remettre en fonction. Pour les pieds, c'est exactement pareil.
Ouais, en gros, on vit avec des plâtres aux pieds, quoi.
C'est toi qui as employé cette image, hein, c'est pas moi.
Et avant d'aller au plâtre, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur des anecdotes un peu historiques, puisque tu écris dans ton dossier que les nobles s'imposaient des talons disproportionnés, hein, je crois 10 cm pour Louis XIV, et des souliers qui étaient à l'opposé de la notion même de confort au prix, évidemment, de grandes douleurs, voire d'infirmité. Comment en est-on arrivé à de telles extrémités ?
Alors, comme je m'en suis aperçu, c'est le résultat d'une longue histoire qui remonte au moins à l'Égypte ancienne. Dans les couches les plus hautes de la société, le soulier était vu comme un moyen d'apparat pour afficher sa supériorité en faisant paraître plus grand ou en affichant le statut de la personne. Et c'était encore le cas dans l'Europe du XVIe, du XVIIe. Celui qui portait de tels dispositifs était perçu comme quelqu'un d'assez riche pour payer des personnes pouvant subvenir à des besoins essentiels comme se déplacer, faire ses courses. C'est là où je trouve que c'est toute l'ironie de la situation. Le soulier est alors conçu sciemment pour handicaper son porteur, qui est alors considéré comme une personne aisée. Tu vois à quel point on en est
rendu. C'est vicieux.
c'est totalement vicieux. En France, on avait plus l'habitude, effectivement, de ces chaussures avec un talon très haut, mais en Angleterre, plus spécifiquement, tu as les poulaines. C'est des chaussures avec extraordinairement longues, très très pointues, très effilées, avec une longueur de plus de 1 mètre. Quoi. Alors, t'imagines que marcher avec ça, c'était l'enfer. Mais le but était le même. C'est-à-dire, celui qui portait des poulaines, forcément, il devait employer des gens pour satisfaire ses besoins naturels. Se déplacer, faire ses courses, c'est incroyable.
Oui, parce que en gros, j'imagine qu'il devait en plus être directement impacté par l'emploi de ses chaussures et se retrouver avec des doigts de pied déformés, ce genre de choses.
Ah oui, oui. Il y a une tombe qui a été retrouvée en Angleterre d'un noble du XVIIe qui a été enterré avec ses poulaines, comme quoi il devait en être fier. La tronche des pieds, c'est assez incroyable, quoi. Tous les orteils sont entremêlés. Enfin, je pense qu'il devait souffrir le martyre.
Hervé, en dehors du parti pris esthétique, j'imagine que s'infliger pareille paire n'était pas sans impact physique pour nos nobles.
Oui, c'est évident, quoi. Les nobles souffraient de cette affection et quelque part, bah, on en est un peu les héritiers, mais toute la population générale aujourd'hui, quoi.
Mais est-ce qu'on peut dire, Hervé, que la chaussure moderne, celle qu'on porte tous aujourd'hui et qui est source de bien des maux, on va s'attarder là-dessus, est-ce que celle-là, elle est l'héritière des souliers torsionnaires que s'infligeaient les nobles ?
À un degré moindre, hein, bien sûr, les talons sont moins hauts, les avants sont moins resserrés en général, mais je pense qu'on va évoquer le cas du talon aiguille, mais elles sont pourvues de tout un tas de renforts en caoutchouc, en mousse, qui peuvent laisser croire que c'est pour le bien de nos petits petons. Mais c'est un leurre total. Le problème, c'est qu'en emportant dès le plus jeune âge, dès que tu marches en fait, tu affaiblis tes pieds, tes muscles, qui deviennent dépendants de ces structures. C'est-à-dire que tes pieds sont tellement affaiblis dans les structures que finalement, c'est difficile de s'en passer. Au départ, les pieds n'en ont nul besoin, quoi. Juste, compare les orteils d'un nouveau-né. C'est bien écarté, c'est totalement mobile, et ceux d'un adulte, qui sont collés les uns aux autres, rigides, et qui sentent mauvais. Parce que justement, avoir des orteils aussi comprimés, bah, ça favorise le développement des champignons entre les orteils.
Le pire dans tout ça, c'est que tu dis globalement que pas toutes les belles chaussures sont bonnes à acheter, mais que de l'escarpin à la chaussure bateau, en passant par les chaussures de la marque à la virgule ou celles aux trois bandes et les chaussures de skate, toutes les paires nous font des misères. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû ces défauts, j'imagine, structurels ?
Alors, Toutes les chaussures modernes, qu'elles soient sneakers, mocassins, escarpins, elles se ressemblent à des degrés divers. Elles ont tout un talon. La semelle est rigide, l'avant est resserré et comprime les orteils. Il y a quatre caractéristiques qui rapprochent toutes ces chaussures, même si, comme ça, d'apparence, elles semblent très différentes. Mais en fait, elles se ressemblent vraiment, quoi. Un talon, la rigidité, le fait que la semelle soit épaisse ou rigide, et le fait que l'avant soit plus ou moins resserré.
Les Richelieu, hein, les chaussures de bureau, sont des chaussures à bout pointu et très resserrées à l'avant.
Oui, mais évidemment, des formations professionnelles. Maintenant, je me mets vraiment à regarder les chaussures des gens dans la rue, elles se ressemblent toutes, quoi. Toutes les sneakers sont resserrées à l'avant, et donc tous les orteils à l'intérieur sont comprimés.
Et je le disais dans l'introduction, en plus, on impose à nos pieds ces petites cages, ces prisons dorées et soyeuses dès 3 ans.
Ouais. Et quand tu penses que t'as quand même plein de mômes qui jettent leurs chaussures ou qui ne les mettent pas, ils peuvent pas exprimer pourquoi est-ce que ça les gêne, mais je comprends très bien. Pendant 3 ans, ils ont marché de façon complètement naturelle, et puis on leur impose des dispositifs qui, quelque part, vont contrarier cette marche qu'ils avaient adoptée.
On va beaucoup parler du talon. En l'occurrence, on va faire ça peut-être en deux parties. Le premier point, c'est celui d'une chaussure emblématique et qui fait vivre, je pense, le martyr à de nombreuses femmes et d'hommes qui en portent aussi. C'est les talons aiguilles. Est-ce que c'est les pires ?
Alors, bon, c'est à peu près évident parce que toutes les caractéristiques que j'ai citées précédemment sont amplifiées dans les talons aiguilles. L'avant est très, très étroit. Le talon est très, très haut. Alors, ça entraîne une fonte musculaire, une torsion accrue de la colonne vertébrale et une atrophie des tendons au niveau des chevilles. Alors, ce qui fait que bien des femmes ne peuvent plus se passer de les porter. Moi, j'ai plein de collègues qui me disent « Ah non, moi, les talons, j'en ai besoin. » Et là, on en revient au phénomène de dépendance vis-à-vis du chausson, tu vois. Ces dispositifs déforment tellement nos pieds et les affaiblissent que tu peux plus vraiment t'en passer, quoi. Ou en tout cas, c'est très dur de s'en passer.
D'autant que les femmes, et pas seulement à cause des talons aiguilles, sont plus exposées à ces difficultés.
Oui. Les femmes, en portant des talons aiguilles, elles payent le plus lourd tribut qui soit aux chaussures. Parce que quand tu portes des talons, en fait, ta colonne vertébrale, elle est forcée de se vriller pour te permettre de rester droit. Et plus les talons sont hauts, pire c'est. Et là, je parle pas des oignons, hein, cette déviation du gros orteil qui touche quand même 55% des femmes, soit 9 fois plus que les hommes. Alors, ça conduit certaines à se faire opérer, c'est-à-dire à retirer un morceau d'os. C'est totalement aberrant. Alors, je sais bien qu'on dit qu'il faut souffrir pour être belle, mais bon, il y a des limites quand même.
En continuant sur le talon, mais là, on le voit pas forcément, c'est celui des chaussures qui nous servent à courir, hein, les chaussures de running. Et c'est vrai que le talon, sur la plupart des chaussures grand public, il est volontairement plus épais que l'avant. C'est ce qu'on appelle le drop, hein, la différence entre l'arrière du pied et l'avant. On est souvent autour de 1 cm pour les chaussures du coureur, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Et tu dis en gros que ces chaussures de sport, c'est plus ou moins une aberration anatomique.
Déjà, il faut être clair, il n'existe aucune étude montrant que ces chaussons améliorent la santé. Toutes les études que j'ai retrouvées montrent même l'inverse. Alors, jusque dans les années 70, les sneakers sont totalement plates, hein. Elles ont un drop de zéro. Mais à un moment, les préparateurs sportifs se sont rendus compte que si tu mettais un talon, ça modifiait la course et que le coureur pouvait atterrir sur le talon au lieu d'atterrir sur l'avant du pied comme on est conçu naturellement.
Mais tu fais des plus grandes foulées, quoi.
Mais oui, si bien que tu fais une enjambée un peu plus grande, donc sur un 100 mètres ou un 200 mètres, ça peut faire la différence, tu vois. Mais ce sont des chaussures qui, normalement, devraient être utilisées uniquement de façon transitoire, uniquement le temps de la compétition. Mais bon, le marketing est passé par là, et puis ces chaussures techniques se sont répandues dans toute la population pour être portées en permanence, ouais. Le problème, c'est ça, en fait. Ces chaussures, on les porte tout le temps.
Tu disais même que le talon, c'est une chose, mais qu'il y avait d'autres aberrations techniques qui venaient justement soutenir peut-être l'intérieur du pied et que on en payait le prix derrière aussi.
Oui, et puis surtout que toutes ces améliorations, entre guillemets, techniques, elles sont peut-être confortables au début, mais elles s'écrasent très vite au bout de 5-6 mois, quoi, ce qui fait qu'elles n'ont plus aucun effet. Et surtout, il n'y a aucune étude qui montre qu'elles ont une quelconque utilité sur la santé du porteur.
Je suis moi-même coureur, donc ce point m'intéresse personnellement. Mais j'ai eu la tentation, j'ai testé des chaussures avec des budgets très différents, des amortis très différents. Globalement, ce que tu dis et ce que les études prouvent, c'est plus une chaussure est chère, plus elle ajoute, entre guillemets, des fonctions, des béquilles qui viennent soulager le pied, plus elles sont mauvaises.
Oui, c'est une étude que j'ai trouvée qui m'a vraiment assis, quoi. C'est que plus une chaussure comporte de dispositifs confortables, plus tu vas avoir des problèmes. C'est hallucinant.
Oui, c'est ça. Ça va du talon à la tenue du pied, soutien au niveau de la voûte. Enfin, ça regorge d'inventions et de technicité. Hein.
Oui, oui, et c'est le même principe, quoi. C'est-à-dire que plus tu soutiens ton pied et plus tu aides, entre guillemets, ton pied en farcissant ta chaussure des dispositifs techniques, bah, plus tu affaiblis ton pied. Plus tu le rends inutile, en fait, quoi.
Une fois qu'on a posé tout ça, parce que moi, je vais pas jeter ma chaussure de running non plus de sitôt, puisque bah, tu l'as dit, moi, je les porte uniquement quand je vais courir. J'en fais pas ma chaussure de tous les jours, même si on s'est bien arrêté pour dire que les Veja, les Vans, tout le reste, les chaussures qu'on utilise au quotidien ne sont pas plus bonnes que les sneakers, les chaussures de sport au quotidien. Mais une fois qu'on a posé ce constat, on fait quoi? Moi, je veux bien me promener pieds nus au boulot, mais je suis pas sûr que tout le monde apprécie cette nouvelle mode.
Bah, c'est clair que l'environnement urbain moderne, les trottoirs goudronnés, la saleté des villes, le camp dira-t-on, ne favorise pas une telle pratique. Mais depuis une dizaine d'années, 10-12 ans, t'as quantité de petites entreprises qui proposent des chaussures barefoot, c'est-à-dire pieds nus. Elles sont très souples, elles sont légères, contraignent pas les pieds dans des carcans et elles leur laissent le plus de liberté et de mobilité possible. Or, l'offre devient pléthorique et en plus, il y en a même des très jolies et des très stylées, quoi.
Les chaussures minimalistes, le barefoot, très bien, carrément même. Mais est-ce qu'on peut passer de nos chaussures modernes à celles-là, c'est-à-dire sans aucune assistance, du jour au lendemain? J'imagine qu'il y a certaines précautions à prendre quand même.
Alors, comme je le disais avant, plus tu as porté longtemps des chaussures traditionnelles, plus tes pieds, tes chevilles, tes hanches ont morflé et ont perdu notamment en muscle. Donc, il faudra forcément un petit peu de temps, quelques jours, quelques semaines, pour regagner du muscle, du tendon, mais une fois que tu as franchi le pas, une fois que tu as retrouvé cette sensation unique de marcher comme pieds nus, parce qu'on a l'impression tous, parce qu'on marche 15 jours par an sur la plage pieds nus ou avec des tongs, de connaître la sensation de marcher pieds nus. Non, pas du tout. C'est quand même un petit peu sur le long terme qu'il faut expérimenter cette sensation. C'est quand même une sensation de liberté assez incroyable de se libérer de ces appendices modernes et de retrouver une marche naturelle. Et moi, j'ai le sentiment que tout le monde peut expérimenter ça, en dehors de ceux qui ont des problèmes de santé. On sait que les diabétiques ont perdu une proprioception au niveau de leurs pieds, donc il leur faut des semelles très dures. Mais en dehors de ces quelques cas pathologiques, je crois que tout le monde peut expérimenter cette sensation de marcher pieds nus, comme quand il était petit, quoi.
Et une précision juste, Hervé, sur le terme de proprioception, qu'est-ce que ça décrit?
La proprioception, c'est tous ces capteurs que tu as sous les pieds, qui sont aussi nombreux que ceux que tu as dans la main, et qui font que ton pied est sensible, mais au niveau de la plante. Et tous ces capteurs sont niés avec des chaussures modernes, parce que justement, tu ne sens plus le sol.
Je voudrais quand même formuler, non pas un avertissement, mais peut-être une forme de précaution vis-à-vis des chaussures minimalistes. Hein. J'ai testé, j'ai adoré le livre Born to Run de Christopher McDougall, je crois, c'est ça, hein,
ouais, c'est ça, ouais.
Qui est un livre incroyable sur la découverte un peu de la chaussure minimaliste. Ne vous ruez pas en magasin. Alors, vous pouvez tout à fait le faire et acheter une paire minimaliste de votre choix, mais ne vous lancez pas de suite sur un 10 km en forêt. Vous risqueriez de passer un très, très bon moment justement au contact de la roche, du bois, etc. Ça, c'est génial. En revanche, vous risquez très vite d'en payer le prix puisque notre machine n'est pas habituée à tout ça. Donc, il faut y aller vraiment mollo et un pas après l'autre, si je peux me permettre l'expression. C'est bien ça, Hervé.
Tout à fait. Il faut réapprendre à marcher avant de courir. Je veux dire, si on pratique le jogging, il est vraiment primordial de laisser le temps à notre système musculo-squelettique de se régénérer, de regagner en musculature. Sinon, comme tu l'as dit, on s'expose à des problèmes, à des claquages. C'est vraiment important et ça, tous les témoignages que j'ai pu avoir de gens qui pratiquent le running le disent, il faut vraiment réapprendre à marcher avant de courir, quoi. C'est essentiel.
Bon, disons qu'on conserve, justement, moi j'ai une armoire malheureusement avec pas mal de chaussures qui ne rentrent pas dans la catégorie des chaussures minimalistes. Je ne vais pas les jeter pour autant, je vais continuer à faire mes bêtises. Mais est-ce qu'il y a des exercices peut-être que tu nous conseilles d'effectuer pour redonner un peu de tonus à nos pieds?
Je suis pas thérapeute, je m'y risquerais pas. Mais comme je dis, il faut y aller de façon précautionneuse, quoi. Surtout si on pratique une activité sportive. Il faut être conscient quand même que nos pieds ont été meurtris pendant toutes ces années de port de chaussures, donc il faut leur laisser le temps de regagner en musculature, en force, quoi, parce que clairement, ils sont affaiblis. L'entretien a démarré sur un versant personnel. Moi, quand j'ai découvert ça, ça fait 2 ans et demi maintenant. Alors, j'ai voulu, comme toi, tester la marche en chaussures minimalistes. J'ai plus jamais remis les pieds dans des chaussures conventionnelles et j'avais des très belles chaussures. J'avais des pompes italiennes qui étaient magnifiques. J'ai plus jamais remis les pieds dedans. Et depuis, j'ai plus aucune douleur au dos. J'avais des douleurs aux genoux que je n'ai plus, aux hanches. Je me suis jamais senti aussi bien à ce niveau-là, quoi. Et tu disais, ne vous précipitez pas en magasin. Ça risque pas parce que des magasins, il n'y en a pas, en fait. Il y avait un magasin à Paris qui a fermé depuis, et donc des adresses physiques, il n'y en a pas. Malheureusement, le problème des chaussures minimalistes, c'est que tu es obligé d'aller sur Internet pour en dégoter. Ce qui est un peu problématique, parce que tu ne peux pas vraiment les essayer avant. Enfin, c'est un peu pénible à ce niveau-là, quoi.
Est-ce que tu es en train de me dire que c'est difficile de trouver chaussures minimalistes à son pied?
Exactement. En tout cas, en France, hein, en Angleterre, tu as quelques boutiques, en Hollande, en Belgique, je crois. J'ai en France, il n'y en a pas, c'est pas vrai, parce que j'ai lu, je ne sais plus dans quel village reculé, que le magasin de chaussures du village, son propriétaire, est un fan de chaussures minimalistes, donc tu ne trouves que ça dans son magasin. Et donc, toute la population de ce village est équipée en chaussures minimalistes.
Bon, Hervé, il faut quand même que tu nous retrouves le nom de ce village pour qu'on puisse quand même le préciser peut-être dans la description de l'épisode.
Ça serait bien, mais alors, j'avais cherché pour mon dossier, mais je ne sais pas du tout où j'ai foutu. J'ai une documentation qui est quand même assez énorme et je ne l'ai pas retrouvée.
Écoutez, je vais faire moi aussi mes petites recherches, on verra si on y parvient, auquel cas, faudra bien nous excuser. Mais sinon, moi je vous propose effectivement de vous faire votre avis par vous-même, évidemment de prendre toutes les précautions d'usage pour ne pas vous blesser, et sinon, vous déchaussez autant que vous pouvez afin de laisser vos pieds respirer et les laisser se remuscler tranquillement. Merci beaucoup Hervé, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour continuer avec un nouvel épisode à envoyer de la science dans tous les sens.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.